Hypnose, sophrologie, shiatsu kinésiologique, microkiné. Michel Effouad répond à vos questions dans votre émission Bien-être et vous.
Salut les amis, salut Fred.
Salut Michel.
Salut Pascal.
Salut messieurs.
Bonjour à toutes et tous.
Et évidemment, nous sommes ravis de vous retrouver. Et avant de démarrer l'émission, moi j'ai envie de faire un truc parce que Pascal nous a donné une information tout à l'heure qui était plutôt très plaisante et qui fait toujours du bien. On voulait vous remercier. Voilà, parce que Pascal nous a fait le point tout à l'heure. Et d'ailleurs, je vais lui demander de le refaire avec nous en direct. Surtout les endroits de France et d'Europe ou du monde, je ne sais pas si on peut dire comme ça.
On peut dire du monde.
Ah oui, on peut dire du monde, je crois, cette fois. De tous ces gens qui nous écoutent et de toute cette attention finalement que vous nous apportez et qui nous fait du bien parce que...
Oui, alors les écoutes sont exponentielles depuis 2 ans, ça fait vraiment plaisir.
Et donc merci pour ça. Et Pascal, est-ce que tu peux nous redonner un peu la liste parce que c'est ce que tu nous as donné tout à l'heure, la liste de tous les endroits où on est entendu, écouté.
Voilà, vous êtes nombreux à nous écouter dans le monde entier, hein, puisqu'on commence par Charme, Sarrebourg, au Kansas, à Jeuf, à Toulouse.
Au Kansas, attends. Au Kansas. Parce qu'autant on se la pétait un peu. Au Kansas, tu parles des États-Unis, là ?
Tout à fait.
I would like to know. Je veux savoir qui nous écoute.
Alors c'est toi qui es au Kansas.
Oui.
Qui nous écoute.
Envoie-nous un message,
s'il te plaît. Oui.
En anglais, en français,
comme tu veux, on s'adaptera.
Il faut qu'on sache. On est également écouté à Toulouse, à Moutier, à Bordeaux, à Genève.
Ah, écrivez-nous sans accent, s'il vous plaît.
Nos amis suisses.
Pont-à-Mousson, à Nantes, à Rennes, à l'hôpital, à Metzeresh, à Omécourt, à Amnéville, Strasbourg, Lyon, Saint-Cyprien dans le sud, à Nancy, à Amnéville, à Nîmes, Fremestroff, Farebersvillers, Marseille, Strasbourg, Lille, Forbach, Rombas, Verny, la Belgique, l'Allemagne, Aix-en-Provence et du côté de Sarreguemines également. Et plein d'autres.
Bon, moi, je suis déçu, Michel.
Pourquoi ?
On n'est pas écouté ni au Bangladesh.
Ouais, c'est vrai.
Ni en Finlande.
Mais donc, ça veut dire qu'il faut qu'on redouble de travail pour y arriver.
On va redoubler de travail. On va encore améliorer la qualité de nos émissions.
C'est promis. Et d'ailleurs, pour aborder tout ça, mais tu sais, quand on aborde la question du travail, justement, je rebondis, il faut quand même faire attention à un truc, hein, parce que quand on travaille trop, on risque...
Le burn-out.
Et ouais, et ça va être la thématique de la journée, qu'est-ce qu'on pense de l'émission d'aujourd'hui en tout cas.
Eh oui, aujourd'hui on vous a concocté une nouvelle j'utilise des mots que j'utilise jamais dans le quotidien, il faut que j'arrête.
C'est normal, t'as la radio, tu fais des efforts. Ouais. Je te rappelle que t'es écouté aux États-Unis. Alors
au Kansas s'il te plaît.
Ah oui, pardon.
Et nous vous avons préparé une émission spéciale thématique parce que beaucoup de gens nous l'ont demandé. Sur le burn-out.
Eh ouais, le burn-out qui est quelque chose qui arrive. Bien souvent, les gens, quand ils se retrouvent en burn-out, on va tout de suite décrédibiliser un truc, ils ont honte. On a honte d'être en burn-out. C'est limite pas normal d'être en burn-out. On a l'impression, et souvent les gens qui sont en burn-out ont l'impression d'être des parias de la société ou des feignants ou autre, alors que pas du tout.
Eh oui, et là tu mets le doigt d'emblée sur quelque chose de très important dans le burn-out, c'est que souvent, je crois même 100% des cas que j'ai rencontrés, des gens qui étaient en burn-out ou qui ont frôlé le burn-out étaient dans une thématique de honte, parce qu'en dessous, il y a la thématique de la culpabilité.
Je suis jugé, j'ai peur d'être jugé par ma femme, par mon mari, par mon patron, par mes amis. Et donc, j'ose même pas dire que finalement, je suis en burn-out.
Ouais, alors le burn-out, c'est quoi ? Alors, comme dirait mon ami Manu, les burn-out, hein, c'est pas les burn qui sortent de votre caleçon. C'est bien le burn-out, c'est de burn brûlé. On a brûlé, en fait, toute notre énergie. On a brûlé... toutes nos réserves énergétiques. Le burn-out, il faut savoir que c'est 2 organes clés, hein, si on veut vraiment résumer, parce qu'on n'est ni médecin, ni endocrinologue, ni psychiatre. Attention, nous
Bien
sommes
sûr.
Michel Effouad, thérapeute, accompagnant. Nous sommes là pour vous donner des indications, pour dégrossir. Nous allons aborder le burn-out avec notre prisme. Bien évidemment, nous ne remplacerons jamais la médecine,
ni un avis médical,
ni les spécialistes. On est juste là pour vous donner des pistes, peut-être un regard différent de tout ce que nous on a pu rencontrer
pour de nous, cette expérience finalement voilà, qui est la nôtre.
Voilà, et le burn-out est un voyage, hein. D'ailleurs c'est un beau voyage. Moi je dis souvent, quand les gens viennent me voir et qu'ils me disent j'étais en burn-out, je suis en burn-out, je suis à deux doigts du burn-out, à chaque fois de manière malicieuse je leur dis félicitations. Félicitations, parce que le burn-out, vous verrez hein, tout au long de cette émission, le burn-out, il n'est pas inutile.
C'est même un cadeau.
Et c'est même un cadeau de la vie. C'est même un cadeau que vous vous faites, vous verrez pourquoi. Alors le burn-out, c'est quoi ? Ben, c'est lorsque vous n'avez plus les réserves énergétiques pour continuer dans la folie dans laquelle vous étiez.
Et bien souvent, le burn-out, on le voit pas arriver.
Eh oui, on le voit pas arriver, parce que je vais vous expliquer pourquoi on le voit pas arriver. Le burn-out, Michel, moi j'essaie de m'inspirer des travaux qui ont été faits par des spécialistes, notamment des psychiatres. Il y a 12 étapes et c'est important qu'on les prenne dans l'ordre. La première étape, Michel t'en a parlé, quand tu parles que les gens ont honte, c'est parce qu'en dessous il y a une culpabilité, et la culpabilité elle vient en numéro un, c'est d'une grande envie, d'un besoin presque irrésistible, irrépressible même, de montrer, voilà, même inconscient, c'est un programme inconscient, de montrer sa valeur. On veut absolument montrer qu'on est le meilleur.
Et bien souvent, ça nous arrive parce que, des petits, hein, qu'est-ce qu'on fait avec nos enfants ? Il faut qu'ils soient les premiers à l'école, il faut qu'ils aient les meilleures notes, etc., etc., etc. Et sans s'en rendre compte, on est déjà en train de les mettre dans un défi permanent, finalement.
Ouais, il peut y avoir l'éducation, il peut y avoir le modèle sociétal, c'est-à-dire que il faut mieux être le meilleur, il faut être le premier, il faut gagner. On voit les enfants, hein, ils veulent arriver le premier à la cantine, ils doivent faire mieux que le copain, ils doivent avoir plus de cartes que le copain.
Et puis si tu travailles bien à l'école, tu auras un bon travail, sans se préoccuper de finalement qu'est-ce qu'il veut lui. Et qu'est-ce qui serait peut-être plus intéressant de simplement des fois dire à nos enfants, tu sais quoi, c'est le plus important dans la vie ? Sois heureux.
Eh oui. Alors cette envie de montrer qu'on est le meilleur, moi, à mon sens, je l'ai souvent remarqué en thérapie, dans une origine inconsciente, comme tu l'as dit, Michel, et elle n'émane pas que de l'éducation, du modèle sociétal. Ce sont des sources potentielles, des facteurs potentiels, mais en réalité, ça vient souvent du système familial, c'est-à-dire ça vient même de notre place dans un système familial. Je dois montrer que je suis le meilleur, ou je dois montrer que je suis une belle personne, ou je dois montrer que j'ai de la valeur. Pourquoi ça ? Posez-vous la question. Est-ce que ça ne viendrait pas d'une culpabilité déjà d'exister tout simplement ? Peut-être que je suis arrivé à un moment particulier de la vie de mes parents ou de mes grands-parents. Peut-être que j'ai cru que j'étais pas légitime. Peut-être que j'ai cru que j'étais trop. Peut-être que j'ai cru que j'étais pas assez. Peut-être que je suis une fille et qu'on voulait un garçon. Peut-être que je suis un garçon et on voulait une fille. Peut-être que j'ai eu l'impression de déranger mes parents. Peut-être que je viens suite à un deuil. Peut-être que je viens pendant un deuil.
Alors attends, tu serais en train de me dire que ça commencerait peut-être par un problème de territoire, entre guillemets ?
Ça viendrait sur un problème de place, plus précisément. Peut-être que les gens qui ont tendance à aller vers le burn-out, qui ont tendance à en faire beaucoup, qui ont tendance à vouloir prouver à quel point ils sont des belles personnes, il serait intéressant d'aller chercher la culpabilité en dessous. Et souvent, c'est un problème de place. Alors, c'est quoi le problème de place, Michel ?
Ça peut être la place dans ma famille.
Souvent, dans la famille, exactement.
Ça peut être la place dans mon territoire, c'est-à-dire dans mon travail. En fait, je vais rejouer une scène. Hein. Cette place qui n'était pas la mienne, finalement, ou que j'avais du mal à trouver dans ma famille, entre mon frère, ma sœur, ou mes parents, ou les membres de ma famille, je vais retrouver souvent la même thématique dans mon travail.
Tu es en train de me dire que le travail ne serait qu'une réverbération de mon système familial.
Exactement.
Donc nous serions dans une problématique systémique.
Exactement, comme si c'était un programme qui était finalement... On est déjà pré-programmé, entre guillemets, et on va rejouer les scènes pour essayer, non pas de se faire souffrir, mais essayer de se trouver des solutions de survie.
Alors, toi qui nous écoutes, toi qui as l'impression de frôler le burn-out, ou d'avoir connu le burn-out, ou peut-être même es-tu en ce moment en burn-out, pose-toi la question au départ de ta place. Et pourquoi as-tu eu besoin, envie à tout prix, de montrer ta valeur ?
Petit exemple qu'on retrouve très fréquemment, notamment chez les femmes, il faut que je sois hyper compétente dans mon travail. il faut que je sois hyper compétente en tant que maman. Il faut que je sois hyper compétente en tant que femme d'intérieur, parce qu'il faut que ma maison soit parfaite. Il faut que je sois hyper compétente en tant qu'épouse. Il faut que je sois hyper compétente en tant que maîtresse de mon mari. Enfin, c'est une charge mentale qui est juste astronomique finalement.
Oui, toujours cette injonction de devoir être bon
et
le meilleur partout.
Il faut. Voilà.
Donc déjà pour vraiment, vraiment, si on voulait sortir du risque d'aller en burn-out, faudrait déjà commencer par être fier de sa place sans devoir prouver quoi que ce soit à quiconque. Vous entendez bien les amis ? Vous arrêtez immédiatement de devoir prouver quoi que ce soit à quiconque. Deuxième point, Michel, sur ma liste de 12, je vous le rappelle. Ce sont des gens... lorsqu'on peut frôler le burn-out, sont des gens qui ont une trop grande capacité de travail, au-dessus de la norme, au-dessus de la moyenne. Ce sont des gens qui ne déconnectent que rarement de la notion de travail.
Ben je peux pas, je dois, ou il faut. Dites-vous un truc, à partir du moment où vous commencez par votre phrase par « je dois » ou « il faut », c'est de la merde. Arrêtez de faire ça.
Oui, et puis toi qui es un grand résistant, qui est capable de travailler des heures de faire plus que tes collègues. Méfie-toi. Oui, c'est bien. Au début, c'est valorisant. C'est valorisant.
Et après, on prend l'habitude.
Et ça devient une mauvaise habitude.
Et ouais. Vous savez, moi, je vous donne un exemple. Et il est il y a quelques années de ça. À l'époque, moi, je travaillais dans une entreprise où je vendais du carrelage. Et j'ai un copain qui tenait une botte de nuit sur Metz qui vient m'acheter du carrelage pour refaire toute sa boîte. Et donc il trouve un artisan pour venir lui poser le matériel, etc., etc., etc. Et donc je décide d'y aller un vendredi soir en me disant bah tiens, je vais aller voir l'avancée des travaux, c'est un copain, donc j'arrive là, on discute, on passe la soirée à discuter. Et moi qui suis quelqu'un de très observateur, j'observe un certain nombre de tables avec des clients plutôt bons consommateurs, et je me fais la réflexion en me disant waouh, il y a quand même des bons clients pour un vendredi soir, c'est pas mal. Se passe 3 semaines, le chantier se finit, je décide quelque temps après d'y retourner pour voir la fin des travaux et voir comment tout
et
ça...
Et pour boire un coup.
Et puis pour boire un coup, l'ambiance était chouette. Donc je reviens, et ce vendredi soir, également un vendredi soir, et donc je retrouve, si tu veux, les mêmes clients. Bref, et puis la soirée se passe, j'étais avec mon pote, on était en train de discuter avec le patron de la boîte au bar, et puis à un moment donné, je vois un des clients qui vient chercher une bouteille de coca. Et donc je vois mon pote qui lui facture la bouteille de coca alors qu'il avait une table très chargée. Et je regarde mon pote et je lui dis, mais j'étais un peu gonflé quand même, non ? Bah, il me dit, pourquoi ? Bah, j'ai avec tout ce qui t'a consommé là, franchement, de lui faire payer une bouteille de coca, c'est un peu abusé. Terme de commerçant. Et là, il me regarde, il me dit, ah non. Il me dit, tu sais, la seule différence entre toi et moi, c'est l'expérience. Je dis, ouais ? Je dis, bah, vas-y, explique. Il me dit, bah, tu te souviens pas, mais il y a quelques années, quand mon papa est décédé, il est décédé un vendredi soir. Et donc, forcément, le vendredi soir, j'ai moins de personnel, etc., etc. J'avais pas le choix, je ne pouvais pas ne pas ouvrir la boîte, donc je suis quand même venu travailler. Sauf que j'avais qu'une envie, c'était d'être chez moi et de pouvoir pleurer le décès de mon papa, en fait. Et donc, il me dit le soir-là, bah, j'ai été moins sympa avec mes clients, j'avais la tête ailleurs, en fait. Et il me dit, comme toi, j'avais l'habitude, bah, tiens, je mets une tournée là, je paye un verre là, etc., 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 etc. Je dis, ouais, et? Bah, il me dit le soir-là, je l'ai pas fait, en fait. Non pas parce que je voulais pas, parce que j'avais juste la tête ailleurs. Ouais, je comprends. Il me dit, tu sais comment ça s'est passé en fin de soirée ? Bah, tous ces gens qui j'offraient un verre régulièrement ou j'offraient une bouteille, enfin peu importe, eh ben, ils sont tous venus me le reprocher. Et j'ai eu beau leur dire que c'était pas contre eux, c'est juste que mon père était mort et que j'ai... Voilà, il me dit, j'ai perdu 50% de ma clientèle ce soir-là. Parce qu'en fait, le cadeau que je faisais habituellement était devenu une habitude, c'était un dû en fait. C'était plus considéré comme un cadeau, mais comme un dû. Combien de fois on a fait cette erreur-là au travail ? De vouloir en faire plus que ce qu'on nous demande. Parce que le chef va être content, parce que ceci, parce que cela, parce que je veux être valorisé, parce que finalement je veux être aimé. Et ben ce truc-là que je fais en plus, finalement, c'est devenu la norme. Et donc plus personne ne va apprécier ce que je fais en plus. Alors je vous dis pas de pas travailler, c'est pas ce que je vous dis, mais faites déjà ce que vous avez à faire, faites le bien.
Oui, et on peut même le faire un tout petit peu plus. D'ailleurs, on dit que la clé du bonheur, c'est de faire toujours un petit peu plus que ce qu'on nous demande, mais attention à ne pas se griller.
Bah oui, parce que bien souvent, on parle de burn-out, mais on oublie juste un truc, c'est qu'avant le burn-out, il y a une autre étape qui s'appelle le burn-in.
Exactement.
Et on n'en parle jamais de celle-là.
Et le burn-in, justement, c'est le troisième point. C'est lorsqu'on on veut montrer qu'on est le meilleur, c'est point numéro un. Deuxième point, on a une grande capacité de travail. Le 3, c'est quand justement on n'écoute plus nos besoins, on ne s'écoute plus vraiment. Alors ça peut être des besoins simples, hein. Ça peut être on se couche un petit peu plus tard, on reste un peu plus tard au bureau, on prend un peu moins de vacances.
On ramène le boulot à la maison.
On ramène le boulot à la maison. Et donc ça veut dire qu'on va commencer à négliger les besoins vitaux, les besoins de refaire de l'énergie. Et ça, c'est insidieux. Ça se fait sans qu'on s'en rende compte.
Ça se fait tout doucement, un peu comme une sorte de goutte d'eau, vous savez, qui tomberait sur une pierre et qui, au fur et à mesure, viendrait faire un trou. Vous prenez un litre d'eau, hein, vous le balancez sur une pierre d'un seul bloc, il ne se passera rien. Chaque jour, vous mettez une petite goutte. À intervalles réguliers, au bout d'un moment, ça va faire un trou. Hein.
Eh oui.
Et c'est ce qui se passe, bien souvent.
C'est le poids de la répétition, de manière tout doucement, et ça devient insidieux. Ce qui fait que quatrième point, Michel, c'est une forme de déni. C'est le déni de notre propre stress. C'est-à-dire que nous avons des signes de stress, nous sommes stressés, mais on ne veut pas le voir.
Non, ça va aller. Ça va aller, c'est qu'une période. Dans quelques temps, ça ira mieux. Je suis capable de le faire.
Oui, on est tellement focus sur nos objectifs, sur notre travail, qu'on rentre dans une forme de déni. Et alors, on commence à être tendu, hein, stressé, fatigué, on a même des signaux physiques, on a des signaux mentaux, mais on ne veut pas le voir, on ne peut pas le voir à ce moment-là. Et là, ça commence à être dangereux.
Bah oui, parce que même si je dors mal la nuit, je vais me trouver une excuse. C'est pas le boulot. C'est pas tous les problèmes que j'ai amenés à la maison. Ben non, c'est la pleine lune.
Alors, les excuses, justement, qu'on se trouve, bah, toi, tu le sais très bien de par ta pratique, c'est lorsqu'on commence à changer notre perception de la réalité. C'est le cinquième point. On va commencer à modifier notre vision de notre monde. On va modifier l'ordre de nos priorités. Et toi, Michel, je sais que tu es très, très... comment dire, tu es très intéressé par la notion des valeurs. Je sais que tu travailles beaucoup avec les valeurs
bien
avec
sûr.
Tes patients. Et d'ailleurs, je t'ai vu faire avec, voilà, que ce soit en atelier, etc. Quand tu demandes aux gens de lister les valeurs les plus importantes, parce qu'on peut retrouver la liste de toutes les valeurs.
Bien sûr.
Il y en a, je crois, 200 comme ça.
Et d'ailleurs, si vous voulez un petit conseil, que vous voulez le faire, je peux même vous donner l'exercice, ça prend 2 minutes.
Oui.
Vous allez sur Internet, vous allez chercher la liste des valeurs humaines.
Mmh.
Ok. Vous allez alors trouver des listes, hein, en moyenne il y a entre 150 et 280 ouais, valeurs
ça,
à peu
ouais,
près. Hein.
Ouais.
Sur ces valeurs-là, vous allez en choisir 15. Mais alors 15 valeurs qui me parlent, qui sont importantes pour moi.
Ouais, donc je lis la liste de toutes les valeurs,
toutes les
150,
valeurs.
180, et tout de suite mon cerveau va repérer ouais. celles qui sont importantes.
Bien sûr, ouais. On va aller repérer peut-être la famille, l'amour, le respect, enfin peu importe. Et donc on va sélectionner finalement 15 valeurs qui sont importantes pour nous. Ça, c'est la première étape. Une fois que j'ai sélectionné mes 15 valeurs, je prends ma liste comme elle vient, je me pose pas de questions.
Donc, je les note.
Tu les notes, simplement les unes en dessous des autres.
Très
okay.
bien.
Et là, je vais commencer à faire ce qu'on appelle une hiérarchie des valeurs. C'est-à-dire que moi, naturellement, si je prends ma liste de valeurs et que je la regarde, je vais me dire, ouais, la plus importante, ça va être l'amour, ou ça va être la famille, ou ça va être... Mais non, ça, c'est une grosse connerie parce que c'est l'image qu'on se donne.
Oui.
Et c'est l'histoire qu'on veut se raconter pour se donner bonne conscience. Elle sert à rien. Donc ça, vous oubliez, ça sert à pas grand chose. Je vais simplement prendre cette liste de valeurs et de ces 15 valeurs et je vais commencer par la première. Admettons que la première soit la famille. Et ben, cette première valeur-là, je vais aller la comparer à toutes les autres. Alors, admettons que la première soit la famille et que la deuxième soit l'amour. Et ben, je vais me poser cette question-là. Entre la valeur famille et la valeur amour, laquelle des deux est la plus importante pour moi?
Oui.
La famille, l'amour. Ah, c'est la famille, c'est sûr. Hmm? Est-ce que la famille sans amour, ça marche? Ah ben non, c'est peut-être l'amour. Ah, ok. Admettons que la troisième, ce soit le respect. Entre la famille et le respect, est-ce que la famille sans respect, ça marche? Ah ben merde, c'est le respect. Eh ben, je vais mettre un petit trait à côté de la valeur qui correspond. Et donc, je vais aller comparer après à la quatrième, à la cinquième, à la sixième, jusqu'à 15. Une fois que j'ai fini ma première, je repars de la deuxième et je refais la même
donc,
chose.
Donc en fait, à chaque fois, tu prends une valeur que tu compares à celles qui sont en dessous.
Exactement.
Et tu mets une barre...
à celle qui est la plus importante entre les deux.
Entre les deux.
Exactement.
D'accord. Donc, et tu fais ça, tu répètes ça à chaque fois avec chaque valeur.
Toujours vers le bas, puisque à partir du moment où j'ai fait la première, je l'ai comparée aux 15 autres qui sont dessous. Je repars de la deuxième, je la compare à toutes celles qui sont dessous.
Donc, on va le faire 14 fois, enfin 15 fois cette
opération. Exactement. On fait exactement ça 15 fois. Ce qui fait qu'à la fin, on va avoir un certain nombre de bâtons finalement
oui.
par valeur.
Ah.
Ce qui va nous permettre de les reclasser et d'avoir la bonne hiérarchie finalement de mes valeurs.
Et là, c'est intéressant.
Eh ben oui, là, ça va changer toute la donne.
Ça donne une réalité, une vérité un peu plus...
Bah, concrète et réelle de ce que je vis et de ce que je vis dans ma vie.
De mon système de valeurs.
Exactement. Donc là, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir classer mes 15 valeurs finalement de la plus forte à la moins forte. Et on va pouvoir s'apercevoir, alors dans les grandes lignes, hein, logiquement, on devrait pouvoir assez facilement observer les 5 valeurs les plus fortes, par exemple. Pourquoi ces 5 valeurs les plus fortes sont les premières et les plus fortes ? Parce que ce sont des valeurs dont je prends soin régulièrement. Mmh. Okay ? Celles-là, elles sont très importantes pour moi. Donc celles-là, elles sont plutôt ok, tout va bien. Là où ça commence à pêcher, c'est sur les 5 valeurs moyennes. Parce que celles-là, je m'en occupe, mais que moyennement. Je m'en occupe pas assez, en fait. Et là où ça pêche vraiment, c'est sur les 5 valeurs les plus basses. Parce que ces 5 valeurs les plus basses, je ne m'en occupe pas assez du tout. C'est celles-là dont il faut que je prenne soin. Parce que ces valeurs-là vont entrer en lien direct avec mon moral et comment je vais. Donc si, par exemple, dans mes valeurs basses, j'ai l'amitié... Bah, si je suis honnête avec moi que j'ai cette prise de recul,
je vais être
capable de me dire bah, « ça fait peut-être longtemps que j'ai pas pris du temps avec mes amis ».
D'accord.
Alors ça veut pas dire qu'il faut sortir tous les soirs faire la fête. Non, mais simplement prendre son téléphone et appeler un copain ou une copine pour prendre des nouvelles.
C'est super intéressant cet exercice, c'est juste incroyable.
Ah, il est génial.
Alors moi je vous propose les amis, vous qui nous écoutez, bah si vous voilà, vous allez avoir le temps, on va diffuser une petite musique. Vous allez avoir le temps peut-être d'aller chercher la liste des valeurs.
Et puis n'hésitez pas hein, si vous avez pas eu le temps d'écouter l'exercice, vous pouvez réécouter sur les podcasts de l'émission. N'hésitez pas, vous m'envoyez un message, je vous l'envoie par écrit s'il faut. C'est pas un problème et ce sera avec grand plaisir si ça peut vous aider, n'hésitez surtout pas.
On retrouve l'émission sur MaxiTop Radio, on retrouve l'émission sur Deezer, sur YouTube, Amazon Music, sur Spotify.
Sur toutes les plateformes. Il vous suffit de taper Bien-être et vous avec Fouad et Michel et vous nous retrouverez partout.
Ouais, alors beaucoup d'auditeurs m'ont dit il faut taper Bien-être et vous, comment rester optimiste. L'émission, elle est plutôt enregistrée comme ça. Donc c'est plus facile à retrouver. Allez, on se retrouve tout de suite après cette petite pause musicale.
Deja de mentirte. La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Bebé, yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos. No te diré quién, pero llorando por mí te vieron. Por mí te vieron. Déjame decirte, se ve que él te trata bien, que es todo un caballero. Pero eso no cambiará que yo llegué primero. Sé que te va a ir bien, pero no te quiere como yo te quiero. Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Hawái de vacaciones, mis felicitaciones. Muy lindo en Instagram lo que posteas. Pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea. Míntele a todos tus seguidores. Dile que los tiempos de ahora son mejores. No creo que cuando te llame me ignores. Si después de mí ya no habrán más amores. Tú y yo fuimos uno. No hacemos en ayuno antes del desayuno. Fumábamos el agua que te pasaba el humo. Y ahora en esta guerra no gana ninguno. Si me preguntas, nadie te me culpa. A veces los problemas a uno se le juntan. Déjame hablar, porfa, no me interrumpas. Si te hice algo malo, entonces discúlpame. La gente te lo va a creer. Actúas bien ese papel, baby. Pero no eres feliz con él. Puede que no te haga falta nada. Aparentemente nada. Hawái de vacaciones. Mis felicitaciones. Muy lindo en Instagram lo que posteas. Pa' que yo vea cómo te va. Pa' que yo vea.
Hypnose, sophrologie, shiatsu kinésiologique, micro-kiné. Michel Effouad répond à vos questions pour votre être dans votre émission Bien-être et vous.
D'ailleurs, je pense que moi, je vais pouvoir ajouter la valeur musique parce que la musique, ça fait toujours du bien, finalement.
Ouais, c'est sûr. La musique, elle nous accompagne dans plein, plein de moments importants, c'est vrai.
Ah bah, c'est toujours relaxant, c'est détente, et puis ça peut être des fois très énergisant, et ça fait du bien.
Eh oui, alors on revient sur notre thématique du burn-out. Le burn-out, on avait dit souvent hein, au départ, problème de légitimité, on veut absolument prouver sa valeur, à quel point on est le meilleur. Ensuite, on a une capacité de travail au-dessus de la norme, donc ça devient presque normal. Et puis, on commence à négliger ses propres besoins, on ne s'écoute plus vraiment, et on commence à ne pas écouter son stress, on fait un déni sur notre stress. Et on en était au cinquième stade où on commence à perturber l'ordre de nos valeurs.
Exactement. Et à plus les respecter.
À ne plus les respecter. Alors du coup, bon, ben, on commence à s'asseoir sur la valeur famille. Les amis passent au second plan. Le travail commence à grignoter des places. Hein, le travail commence à devenir le numéro un.
Ah ben, il grignote pas même des places. Il prend finalement.
Il prend la place. Il prend la place. Effectivement, il prend tellement la place qu'à ce moment-là, on va exister qu'au travers du boulot. Donc sixième stade, on va se reconnaître par rapport à notre fonction, par rapport à notre travail.
On va s'identifier.
Voilà, on va s'identifier au travail. Et là, écoutez bien les amis, si vous voyez autour de vous, ou si vous reconnaissez dans ce qu'on vous dit, si vous commencez à trop vous identifier à votre travail, automatiquement, vous humains, vous allez commencer à être dans une forme de rigidité, d'intolérance, un peu de suprématie comme ça. On va prendre les gens de haut.
C'est la surestime de soi finalement.
Via le travail.
Eh oui, via le travail, bien sûr.
Je suis performant dans mon travail, j'existe dans mon travail, je suis reconnu par mon travail, et du coup, je vais voir le monde et le prisme que par le travail. C'est intéressant ce qu'on vous raconte. Si toi qui nous écoutes, tu te reconnais à certains moments de ta vie que par le travail, red flag.
Direct.
Directly.
Et là, t'as intérêt à changer, mon pote.
Ouais, va falloir que t'existes autrement que par le travail, mon ami.
Parce que sinon, je peux te promettre un truc, c'est que tu vas pas le voir arriver, et tu vas passer les autres étapes et les suivantes étapes sans même t'en rendre compte, jusqu'au jour où ton cerveau va dire stop.
Quelles sont les autres étapes, Michel ? Septième étape. Là, comme nous sommes stressés, qu'on commence à rogner les valeurs fondamentales, qu'on commence à mettre le travail en ligne de mire, eh bien, notre corps va commencer à lancer des signaux. Et donc là, ben, qu'est-ce qu'on fait, nous humains, quand on est dans le déni et qu'on veut pas avoir notre stress? Eh ben, on compense. Et on compense par des choses qui, au départ, peuvent paraître positives. Des petits compléments alimentaires, des petits médicaments.
Des petits carrés de chocolat. On va se créer en fait une sorte d'addiction finalement.
Ouais, un petit verre qui me fait du bien, qui me permet de tenir. Le café qui bien me sûr. Permet de rester alerte. Mon petit Red Bull. Je vais commencer à... En fait, au départ, des addictions qui paraissent plutôt positives parce que ça va nous booster. On commence à prendre des boosters.
Et puis... Et puis, il y en a même qui vont s'orienter vers plus de cigarettes, plus de certaines drogues, certaines choses comme ça. Hein.
Oui, tout à fait.
Bien sûr.
Donc déjà là, pareil, si tu estimes que tu commences à consommer trop de béquilles, pose-toi la question. Là, pareil, attention.
Combien, moi, j'ai vu de gens qui ont burn-out quand tu poses des questions et te disent, bah oui, il y a une période, j'étais fatigué, j'ai pris du guronzan, je prenais du guronzan tous les jours.
Ouais, ça devient normal.
Bah oui.
Donc tout ce qui devient normal, ce n'est pas normal. Tout ce qui devient la nouvelle norme, c'est hors norme. Alors, huitième stade, changement de comportement. On ne s'en rend pas compte, bien évidemment. Parce que dans un burn-out, t'es le dernier prévenu.
Mais bien sûr.
Hein, tout le monde va se rendre compte que tu commences à devenir hautain, stressé, stressant.
Et là, tu commences à te dire que tout le monde t'en veut.
Les gens ne comprennent pas.
Bah oui. Ils peuvent pas comprendre d'ailleurs.
Ils peuvent pas comprendre. Moi, je suis dans mon truc, je performe, mais tu comprends pas. Moi, je dois réussir et on compte sur moi.
Et puis, t'es bien content. T'es bien content que je ramène plus de salaire ou que ceci ou que cela. Et c'est ça qu'on va chercher.
Et
comme
puis,
excuse.
Tu crois que ma place, je l'ai eu comment? Et puis, tu crois que je suis reconnu comment? Tu crois que je me suis glandé? Tu crois que c'est parce que. Donc voilà,
c'est facile?
Voilà. Et là, on va commencer à changer nos comportements. Alors, souvent avec qui? Ben, malheureusement, nos proches.
Ah, bah, ça commence par notre famille finalement.
Notre famille, ouais. Nos proches, alors nos conjoints, nos enfants. Nos parents, nos frères et sœurs, nos amis très proches, mais on ne le voit pas. Les autres, oui. Mais nous, non.
Et plus ils vont nous le faire remarquer, plus ça va nous énerver.
Ah bah oui. Donc on va rentrer encore plus dans notre déni. Donc si on veut aider quelqu'un qui est dans un déni, je ne crois pas qu'il faille y aller en frontal.
Ça sert absolument à rien. Vous savez, c'est un peu comme les gens qui sont en dépression et qui ont tapé sur l'épaule en disant « t'inquiète, ça va aller ». Franchement, vous croyez que ça va les aider ? Pas du tout. Là non plus, encore une fois, de faire du frontal avec quelqu'un qui serait dans cette situation va pas mener à grand chose. Par contre, là où on peut peut-être intervenir plus calmement finalement, alors moi j'appelle ça la position de l'anthropologue, c'est-à-dire de se mettre en position basse et d'essayer de faire l'inversion des rôles. Ça marche toujours bien, ça permet toujours quand c'est comme ça à l'autre.
C'est quoi une inversion des rôles?
Eh ben c'est tu vois, tu serais dans cette situation là en train de me dire oui, moi le boulot, moi ceci, moi cela, et puis à devenir un peu agressif entre guillemets, eh ben je prendrais calmement le temps de te dire OK, c'est peut-être important pour toi ton travail, je l'entends et super. T'apprécierais, toi, que je sois agressif comme ça avec toi ? Comment tu le prendrais, toi, si moi, j'agissais de cette manière-là avec toi, finalement ? Parce que ça me fait mal au cœur, en fait.
Et donc, en faisant cette inversion, ça nous permet d'aller peut-être plus dans l'amour, que d'aller en frontal.
Et plutôt que d'aller en frontal en disant « oui, tu me fais chier avec ton boulot » ou autre, et de rentrer dans un conflit d'ego, encore une fois, là, c'est vraiment... permettre à l'autre et de le traiter non pas avec ego mais avec le bon ego, c'est-à-dire G-E-A-E-X, donc d'égal à égal, et de lui permettre par lui-même de se rendre compte qu'il fait une erreur.
D'accord. Ouais, ouais. Oui, parce que dans le neuvième stade, on se rend compte que les gens qui commencent donc à aller trop dans le travail et aller dans des formes de déni, à mettre le stress sous le tapis, perdent ce qu'on appelle leur individualité. L'individualité, c'est cette capacité à se reconnaître, à s'épanouir, à prendre du plaisir. Ce sont des gens qui ne vont aller vraiment que dans les résultats ou dans la fonction. La recherche de résultats où je m'identifie à ma fonction. Voilà, donc en fait finalement on devient plus un robot.
Oui, c'est exactement ça.
On perd notre humanité.
On va arriver au bureau, limite on va plus dire bonjour à personne parce qu'il faut vite aller à son poste de travail et vite performer et puis vite traiter et on va se chercher tout un tas d'excuses pour ça.
Ouais,
il faut que je réponde tout de suite à un mail, il faut que je réponde, que je rappelle un client tout de suite, comme si le monde allait s'arrêter si je ne le faisais pas tout de suite.
Finalement. Ouais, c'est une course effrénée, c'est presque comme une addiction, c'est-à-dire que plus on y va, plus on a envie d'y aller. Et alors les psys parlent dans l'étape là de dépersonnalisation. C'est quand même fort, on se dépersonnalise.
C'est un peu comme si moi, j'appelle ça de la dissociation, finalement. On se dissocie de nous.
Oui, on se coupe de nous. On perd en alignement. Étape 10, ben, on commence à sentir un vide intérieur, en vrai. Parce que le corps étant sursollicité, le mental étant surchargé.
Ah ben là, le cerveau, il est clairement en mode danger, plus. C'est-à-dire que là, on va activer les surrénales, on va activer tout le système de défense, toute la production de cortisol, d'adrénaline, etc., etc. Et on vient complètement saturer le cerveau, le corps, enfin...
Voilà, donc le corps et le mental sont saturés au détriment de votre esprit. On a souvent parlé dans les émissions de l'esprit, c'est ce qu'on peut appeler votre âme, votre conscience, votre soi supérieur. Eh bien, il commence à y avoir un vide à ce niveau-là. Et s'il y a un vide de sens, si dans ma vie je fais les choses parce que je dois les faire, parce qu'il faut les faire, mais que je ne donne plus de sens, si j'arrive plus à donner un cap, une direction à ce que je fais. Si je ne sais même plus pourquoi je passe des heures à mon travail, à faire la tâche, à aider les gens ou à je ne sais pas quoi faire, et que je ne donne plus de sens, là, vous rentrez officiellement en fin de burn-in, on expliquera ça tout à l'heure, et vous allez officiellement rentrer en burn-out.
Ouais. Et ça va vite. Moi, souvent, je donne l'exemple de gens. Je rentre le lundi soir du boulot, je suis en fin de burn-in, effectivement. Et le lendemain matin, pouf, j'arrive plus à bouger de mon lit. J'arrive plus à sortir.
Oui, parce que le burn-out, c'est ça. Le vrai burn-out, souvent, c'est une expression qu'on utilise beaucoup trop. Mais le vrai burn-out, c'est on n'y arrive plus.
C'est soudain. Le corps me dit stop.
Le burn-out, c'est vraiment vous n'arrivez plus à utiliser votre mental. Vous n'arrivez plus à utiliser votre corps. Et un vrai burn-out, c'est l'arrêt. Hein. Vous êtes en arrêt. Vous pouvez pas continuer à travailler. Donc le vrai burn-out, hein, on parle pas des petits burn-out qui durent deux jours, les petits burn-out de la fin de semaine. Non, on parle du vrai burn-out. Et le vrai burn-out, c'est vraiment cette personne qui s'est épuisée physiquement et mentalement, parce que c'est les deux, parce qu'il y a un vide de sens, Michel. On ne sait même plus pourquoi on le fait.
Ouais, c'est ça.
C'est cette phase de votre vie où finalement, un beau jour, vous vous rendez compte que vous êtes seul au monde, vous êtes seul au milieu de rien, et vous vous demandez ce que vous foutez là. J'y suis allé tout seul. Je me suis retrouvé dans cette panade tout seul. Mais je me demande ce que je fous là. Finalement, j'étais tellement dans une course effrénée. J'étais tellement dans le mouvement. J'étais tellement dans une dynamique. Et puis là, pouf, le corps ne me suit plus, le mental ne me suit plus. Et ça me force, et c'est là où il y a un cadeau de la vie, ça me force à me poser les questions de qu'est-ce que je fais là maintenant de ma vie, dans ma vie.
C'est exactement ça. C'est un peu comme si on était... sur une route de campagne où on traçait vite à une vitesse folle, si vite et si fort que finalement on peut même plus observer tout ce qui se passe autour, les arbres, les oiseaux, les autres voitures, etc., etc. Non, on est focalisé et tête baissée finalement vers cet objectif qui est là au bout du chemin. Et à un moment donné, c'est comme si la bagnole nous disait, bah ouais, t'as été tellement loin au bout du chemin que mon pote, t'as plus d'essence,
ouais.
C'est fini, donc je t'arrête.
T'as plus de carburant.
Eh ouais. Et là, c'est comme si notre cerveau nous disait, bah t'as plus le choix maintenant. Tu vas devoir regarder autour de toi les oiseaux, autour de toi les arbres, les plantes, les autres conducteurs. Ah, peut-être s'il y a des gens dans la voiture ou pas d'ailleurs, parce que tu ne le vois même plus. C'est ça qui fait en fait. Et c'est bien souvent pour ça que, et je te rejoins complètement, quand tu félicites les gens qui sont en burn-out, bravo, c'est génial, parce que c'est un vrai message.
Oui, et que tu vas pouvoir te demander ce que tu fais là. T'es allé tellement loin que t'es tout seul, mon pote. T'es tout seul. T'es arrivé. Alors, tu route de campagne, moi je dis, t'es même arrivé à un espèce de rond-point.
Dans le désert, ouais.
Même dans le désert, pourquoi pas. Parce que certaines personnes vont avoir l'impression d'être dans le désert, d'être échouées sur une plage. D'autres vont avoir l'impression d'être au milieu d'un rond-point. Ils savent même plus quelle direction prendre.
C'est ça.
Et puis, mon clan, mon groupe, ils sont loin. En fait, je suis parti tout seul dans mon délire. J'ai pris la route tout seul. J'ai été négligent. Et je me retrouve sans carburant. C'est ça le burn-out. Et c'est pour ça que le cadeau derrière le burn-out, c'est d'essayer de redonner un cap, une direction, du sens à sa vie. Alors ensuite, la 11e et la 12e étape, c'est bien évidemment, comme il n'y a plus d'essence dans le véhicule, on n'arrive plus à se projeter. Je ne sais même plus où je dois aller. Je n'arrive plus à me projeter dans l'avenir, dans le futur. Je ne sais même pas si je vais pouvoir continuer dans ce travail, dans ce mode de vie, à l'endroit où je suis. Et c'est là où on va remettre tous les grands pans de sa vie, que ce soit le travail, la maison, le couple. Bien évidemment, il va falloir qu'on revalide chacun des pans de votre vie, chacune des places. Vous l'entendez, les amis, vous allez devoir remettre du sens dans chacune des places que vous occupez.
Et ça prend du temps.
Ça prend du temps, Michel, et ça prend minimum sur un vrai burn-out 8 mois.
Ah oui, au minimum.
Finalement, c'est presque le temps d'une grossesse.
C'est ce que j'allais dire.
C'est une renaissance. Le burn-out, c'est une renaissance. Voyez-le comme ça. Donc, si toi, t'es en burn-out depuis 3 mois, 6 mois, si tu sens que tu dois t'arrêter, c'est OK.
Et ne commence pas à rentrer dans ce truc de « il faut, je dois ».
Non.
Et d'y retourner.
C'est ce qui t'a mené dans cet enfer.
Tu vas recommencer, en fait. Là, il faut prendre le temps. Du temps.
Mais Michel, la société, aujourd'hui, ne nous l'autorise pas à nous arrêter autant de mois.
La société, qu'elle nous l'autorise ou pas, il faut qu'on le fasse en fait.
Ouais,
parce que la société, il y a plein de choses qu'elle nous
autorise. Mon patron, Michel, qu'est-ce qu'il va dire ?
On s'en fout.
Et puis mes collègues, je les habitue à tellement être au top.
Ouais.
Mes enfants, s'ils me voient à la maison.
C'est vrai.
En survette.
Eh ben, c'est peut-être le moment d'en profiter de tes enfants.
Michel, j'ai honte d'aller voir mon médecin de demander un arrêt, c'est pas moi ça.
C'est vrai, t'as honte ?
C'est pas moi du tout.
Ouais, c'est vrai.
J'ai jamais été en arrêt, moi.
Ne le fais pas alors. Et puis continue à souffrir. Est-ce que tu es vraiment heureux comme ça ?
Mais c'est même pas que je suis heureux ou pas, Michel, c'est que mon corps, il arrive plus à retourner au travail, je fais comment ?
Il est peut-être temps de prendre des décisions différentes.
Ouais, mais moi, Michel, je me juge du coup, c'est-à-dire que je suis nul.
Alors finalement, quelqu'un qui tomberait en panne de voiture sur le bord de la route, ça veut dire qu'il est nul ?
C'est qu'il a été con à un moment donné.
Il a été con, tu crois ?
Il a pas écouté les signaux.
Ah oui, il a pas écouté les signaux, je suis d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire ? Continuer à s'autoflageller ou...
Ou se pardonner peut-être.
Se pardonner, puis s'autoriser à...
Apprendre.
Et puis peut-être se dire... Quelle leçon, une fois de plus, j'ai attiré de cette situation.
Ok, j'arrêterai d'attendre que ça clignote depuis trop longtemps avant de faire le plein.
Ah ouais, la prochaine fois, j'aurai m'arrêter. Les voyants.
Je devrais m'arrêter, ralentir. Ah, ralentir, tiens. C'est vrai que quand je ralentis, j'utilise moins de carburant.
Et puis tu peux observer le paysage.
Si je ralentis, j'utilise moins de carburant. Tiens, on en revient toujours à cette histoire de temps. Ce temps qui file, ce temps qui s'accélère. Cette société qui nous demande toujours d'aller plus vite. c'est toutes ces signaux, ces informations, ces notifications, tous ces rendez-vous, tous ces plannings, tous ces agendas. Je n'en peux plus, Michel.
Ah ben, moi non plus.
Je vais ralentir le temps. Parce que 12e étape, t'es en burn-out, mon pote. Et quand t'es en burn-out, eh ben, t'as plus le choix.
Ah bah, tu tires le rideau.
Tu t'arrêtes et t'attends, tu viens avec ton bidon tout vide et t'essaies de trouver une station essence. Et là, il va te falloir 8 mois pour aller chercher ton essence et remettre de l'essence dans le réservoir. 8 mois.
Et là, t'as le choix pendant ces 8 mois. Le premier choix, c'est de se dire, je suis mauvais, c'est de ma faute, je suis un con.
Ouais, au début, c'est ok, hein. T'as le droit de te remettre en question.
T'as le droit, très bien. Et puis, la deuxième étape, ça va être de dire, j'ai pas de chance dans la vie.
Ouais, t'as le droit de faire ta victime. Hein.
J'ai le droit aussi de me dire que peut-être Dieu m'en veut.
Non, c'est la vie qui m'en veut.
Ou j'ai fait un truc moche dans une vie antérieure.
Non, j'ai pas de chance.
Ah ouais, non, c'est une question de chance.
Peut-être le karma.
Ouais, c'est le karma. Bah oui, bah, je te
dis. Et pourquoi ça m'arrive à moi?
Bah parce que peut-être je suis faible, en fait.
Mais je comprends pas, j'ai toujours fait des bonnes actions.
Ah bah ouais, je mérite pas ça.
Mais pourquoi le burn-out, ça arrive toujours aux gens qui font bien leur boulot?
Qui font bien ou qui font trop?
Qui donnent trop.
Ah. Est-ce que j'aurais trop donné?
Mais moi, on m'a toujours dit que le bien attire le bien, le mal attire le mal.
Et puis moi, j'ai tellement voulu faire plaisir aux autres, j'ai jamais osé dire non.
Donc tout ça serait faux.
Bah, c'est peut-être des belles conneries, en fait.
Donc en fait, ça voudrait dire que quand je suis dans une culpabilité, que je m'en veux de pas être à ma bonne place, que je veux montrer à la terre entière que je suis quelqu'un de bien, que je donne trop, que je donne tout le temps, et que j'ai cru que j'étais une belle personne, en fait, je me suis gouré.
Bah oui, tu sais pourquoi? Parce que t'as été cherché à l'extérieur, et t'as voulu tout donner pour l'extérieur, et t'as complètement oublié l'intérieur, en fait.
Ah, est-ce que tu peux me le redire doucement?
Ouais, tu t'es tellement occupé de l'extérieur, t'as voulu tellement qu'on t'apprécie, qu'on t'aime, t'as voulu dire oui à tout le monde, t'as voulu faire plaisir à tout le monde, que t'en as oublié l'essentiel. La personne la plus importante au monde. Toi.
Oui, mais les gens m'envoyaient des signaux positifs. Ils me disaient que j'étais super, que j'étais fort, que j'étais performant, qu'ils avaient besoin de moi.
Dans quel intérêt? Le tien ou le leur?
Ouais, ça me permettait d'être aimé, d'être reconnu.
Et alors, si cet amour, plutôt que d'aller le chercher à l'extérieur, t'allais le chercher à l'intérieur de
mais
toi.
Mais on m'a pas appris à m'aimer, moi, Michel.
Mais non, parce que depuis tout petit, on t'a dit qu'il fallait pas être égoïste, qu'il fallait partager.
On m'a dit que je pouvais m'aimer que si je donnais beaucoup, beaucoup, beaucoup et encore plus.
Eh ben, tu sais quoi? On t'a dit des conneries.
Ça voudrait dire que je peux m'aimer même quand j'y arrive pas?
Bien sûr.
Ça veut dire que je peux m'aimer même quand j'en fais moins?
Bien sûr.
Ça veut dire que je peux m'aimer même quand je dis non?
Mais bien sûr.
Ça veut dire que je peux m'aimer même quand je mets des limites?
Bien sûr.
Ça veut dire que je peux m'aimer même si je suis en arrêt maladie?
Mais bien sûr.
Ça veut dire que je peux m'aimer même quand je demande de l'aide?
Bien sûr.
Ça veut dire que je peux m'aimer même quand j'arrête de me comparer aux autres?
Mais bien sûr.
Ça veut dire que je peux m'aimer quand je reconnais que l'enfant que j'étais était en souffrance?
Mais bien sûr. Et tu peux même arrêter et tu peux même accepter de t'aimer. Et de pas te juger. Et Michel, d'avoir un regard différent.
Mais Michel, je vais avoir besoin d'aide pour ça.
Eh ouais. Et tu sais, quelqu'un de responsable, c'est quelqu'un qui demande de l'aide et qui est capable de dire aux autres, ça va pas. J'ai besoin qu'on parle. J'ai besoin peut-être juste d'être écouté, simplement.
Alors, vous l'avez compris, les amis. Vous l'avez compris que le burn-out, vous voyez, c'est plein de phases, plein de stades. Et je suis sûr que plein d'entre vous se reconnaissent.
Bien sûr.
Moi, ça fait 22 ans que j'accompagne des gens. J'ai remarqué que les gens qui font des burn-out sont souvent des super belles personnes, des belles âmes comme on dit.
Bien sûr.
Ce sont des gens qui ont vraiment tout donné. Parce que quoi? Parce qu'ils voulaient juste être aimés. Ils voulaient être reconnus.
C'est toujours une question d'amour en fait. Hein.
Tout le temps une histoire d'estime de soi.
On le répète émission après émission. Ce qui est le plus important pour l'être humain, c'est l'amour.
Oui.
Et bien souvent l'erreur qu'on fait, c'est d'aller chercher l'amour à l'extérieur. Alors qu'on devrait essayer de le trouver à l'intérieur, commencer par être gentil avec soi, commencer par se regarder avec bienveillance.
Et pour ça, faut du temps, les amis.
Mais bien sûr.
Et pour ça, faut un peu débrancher du travail.
On peut couper la prise.
Faut ralentir le temps. On peut pas l'arrêter le temps, mais on peut bien le ralentir.
Sûr. On peut aussi, dire non.
Le temps, c'est une perception. Donc je dis non, ce qui me fait gagner du temps.
Bien sûr.
C'est du temps pour moi, du temps personnel.
Et en plus, ça fait du bien. Ça fait du bien pas qu'à moi, ça fait du bien à mon corps, ça fait du bien à mon cerveau, ça peut faire du bien à ma famille, ça peut faire du bien à mes amis, et puis surtout, ça va me permettre d'être plus relax.
Et de toute façon, pas le choix parce qu'à un moment donné, c'est physiologique. Alors, on va ralentir le temps et on va prendre le temps de digérer toutes ces informations.
Comment ça?
Avec une petite pause musicale.
Génial.
We'll be right back. après vous, l'émission qui parle de vous, de nous, de toi,
de tous,
de moi.
Et ben ça fait du bien cette petite pause musicale.
Ah carrément.
Et vous savez ce qu'on a fait pendant la pause ?
Ah, rien.
On a juste profité de la musique.
Et rien, c'est l'anagramme de nier.
Exactement.
Et étonnamment, quand je ne fais rien, eh ben je me nie moins. Parce que je me reconnais un peu plus quand je ne fais rien. Je suis avec moi-même et je m'aime et je n'ai pas besoin d'aller chercher à l'extérieur ce que tu disais, Michel, ce que j'ai. On a tout à l'intérieur. Vous savez, Michel et moi, on est assez spirituels dans notre approche. Et souvent, en spiritualité, on dit que Dieu est en nous. Dieu, il n'est pas à l'extérieur de nous, hein, les amis. Dieu, il est en nous. On a absolument tout en nous.
Bien sûr.
Mais on est tellement la tête dans le guidon, on est tellement dans notre mental qu'on oublie d'être dans notre esprit, dans notre soi. Et lorsqu'on ralentit le temps, c'est à ce moment-là qu'on peut se reconnecter à notre moi supérieur, notre soi supérieur, quelque chose qui est au-delà de l'ego, au-delà du petit personnage qu'on s'est inventé dans la société, où on est aimé, on est reconnu, où on vient flatter, nous flatter. On s'en fout de ça. Au bout d'un moment, qui êtes-vous ? Est-ce que, n'oubliez pas que vous êtes un peu l'énergie de votre âme, vous êtes votre âme qui vient résonner dans un corps, dans un personnage. Eh bien, voilà, faut pas négliger l'un ni l'autre. L'ego, on en a besoin, bien évidemment. Voilà, si je suis fouette, je suis pas Michel. Si je suis un homme, je suis pas une femme. Si je suis un être humain, je suis pas un animal. L'ego, il nous permet de vivre sur Terre, d'accepter les règles du jeu. Mais nous ne sommes pas que notre ego. Nous sommes une âme, nous sommes une énergie, nous sommes une intention, nous sommes peut-être un chemin de vie, j'en sais rien. Mais en tout cas, nous sommes tout ça. Et lorsque vous ralentissez le temps et que vous n'êtes pas que dans votre travail, vous reconnectez avec votre esprit. Et c'est le burn-out, c'est ça. C'est une marche forcée pour vous inviter à les reconnecter avec la plus belle partie de vous-même.
Et comme le dirait très justement Einstein, nous sommes vibration. Alors incarnez cette vibration finalement d'amour,
oui,
et de justice,
de potentiel,
avec vous-même. Elle est super importante. Alors moi, j'ai une question, Fouad.
Oui.
Comment on pourrait aujourd'hui, grâce à notre expérience, aider finalement peut-être les gens qui nous écoutent et qui ont des proches peut-être autour d'eux ou eux-mêmes qui sont peut-être en burn-out.
Ouais.
Quels conseils on pourrait leur donner aujourd'hui pour les aider un peu ?
Les aider même un peu beaucoup si on peut. Je crois que l'étape nécessaire, c'est d'identifier si nous sommes en burn-in ou burn-out. On parle souvent du burn-out, mais ce qui précède un burn-out, c'est un burn-in. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes en feu, quoi.
C'est la surchauffe du moteur.
Ouais, c'est ça. C'est quand, en fait, vous poussez votre voiture, il n'y a plus beaucoup de carburant, mais vous y allez et vous êtes dans un déni et j'accélère, mais non, ça va aller.
Faut tenir.
C'est le stress de résistance. Hein, ouais. En physiologie, on appelle ça un stress de résistance. Je dois tenir, je tiens le coup. Hein, vous avez des expressions
j'ai
dans
pas
votre
le
tête.
Choix.
J'ai pas le choix, ça va aller. Non, mais ça va aller.
Si moi je m'effondre, tout le monde s'effondre.
Voilà, je dois tenir, blablabla. Et ça, c'est le burn-in. Donc, c'est une phase de suradaptation.
Exactement.
Suradaptation, c'est-à-dire qu'au lieu que juste de m'adapter, ce qui est déjà parfait, je me suradapte. Donc, c'est un surménage compulsif. Je tiens. Et bien là, vous êtes en train de bouffer votre carburant, telle la voiture qui grille son carburant parce que vous roulez un peu trop vite. Au lieu d'être à 110 et à consommer tranquillement votre carburant, vous roulez 150, 60, 160. Forcément, vous pourrez aller moins loin. C'est logique.
Et vous allez pouvoir l'identifier aussi assez facilement par votre sommeil. Est-ce que vous arrivez à dormir ou pas ?
Ouais, souvent ça altère le sommeil parce que en physiologie, on rentre dans le système orthosympathique. C'est-à-dire que vous êtes tout le temps allumé, vous êtes tout le temps on.
Une hyperactivité. Hein.
Un peu comme si votre voiture, finalement, la nuit, vous laissez le contact allumé parce que au cas où faut y aller, quoi, au cas où faut démarrer. Voilà. Donc j'éteins même plus ma voiture, je la range plus dans le garage, je la mets constamment.
Elle est devant la porte, elle est démarrée, elle
voilà,
est prête.
Elle est déjà garée en marche arrière, hein, parce qu'il faut, voilà, elle est prête, on laisse le moteur. En fait, c'est ça. Donc finalement, le moteur, il est allumé à 3h du mat, il est allumé à 4h du mat, il est allumé à 5h du mat. On a du mal à dormir. Alors ça dépend les horaires, ça dépend quel organe est en souffrance. La médecine chinoise nous donne des indications selon l'heure à laquelle vous êtes tout le temps réveillé. Souvent, c'est la même heure. Hein. Les gens le savent très bien quand ils regardent leur téléphone, leur réveil, c'est toujours la même heure. Et bien là, ça prouve que vous êtes dans une phase de burn-in. Donc à ce moment-là, physiologiquement, vous êtes en train de sécréter énormément de cortisol, d'adrénaline. Donc les surrénales, c'est surtout les surrénales, parce que le burn-in, c'est le conflit des surrénales, des petites glandes qui sont posées sur les reins, qui sécrètent des hormones qui sont là pour nous
booster. On vient saturer, on vient fatiguer finalement l'hippocampe, le cortex préfrontal, toutes ces parties-là.
Oui, donc ça agit sur la concentration, sur la mémoire, sur la qualité de sommeil. Alors on tient, mais on commence à être bizarrement moins performant. Donc en fait, si vous voulez, il y a plusieurs conflits qui peuvent amener au burn-in. Pour moi, j'en vois souvent trop au 4 avec mes patients. Il y a ce qu'on appelle, toi, t'as mieux utilisé la notion de territoire, il y a un conflit de territoire, c'est-à-dire que je dois défendre ma place, mon poste, mon statut. Ça peut être dans une famille, ça peut être, par exemple, je suis celle qui doit m'occuper de la mamie, ça peut être au travail, je suis celui sur qui on compte, ça peut être dans une équipe de sport, oui, mais je suis celui qui doit gna gna gna. Donc on devient un peu le référent, le modèle, donc c'est un conflit de territoire. Ça prouve bien qu'au départ, il y a un problème de place. Le deuxième conflit, Michel, c'est un conflit de dévalorisation. La dévalorisation, elle est souvent intellectuelle. Il faut que je prouve que je suis à la hauteur. Un sportif
que je mérite
est un grand dévalorisé.
Bien sûr.
Un sportif qui veut tout le temps augmenter ses performances et qu'il a besoin de prouver quelque chose.
Bien sûr.
Si dans mon boulot, je veux faire plus de chiffres, je veux faire plus de chiffres que mon collègue, je suis numéro 1 France, tiens, j'ai gagné le challenge, j'ai gagné le voyage, machin. Il y a bien de la dévalorisation en dessous. Attention, la dévalorisation peut être un booster, je dis pas, hein, mais attention à pas se griller. Donc derrière, on va rechercher encore, on n'est pas à la hauteur.
C'est toujours une question de dosage, en fait.
C'est toujours la recherche de l'équilibre. La voie du milieu, comme disent les médecines orientales, toujours chercher la voie du milieu. Donc si j'ai l'impression de pas être à la hauteur, si j'ai l'impression d'être nul, si j'ai l'impression de vouloir prouver à mon père, à ma mère, à mes collègues, à mon patron que je suis top du top, je vais forcément dans du burn-in parce qu'on va dans une hyper-performance compensatoire. Le troisième conflit que je retrouve souvent, Michel, avec mes patients, c'est la peur de manquer. Parce que quand on a peur de manquer, et on est prêt à toutes les folies. Qui n'a jamais eu peur de manquer d'argent, de pas avoir assez d'argent sur son compte en banque, sur son compte épargne, de pas avoir une maison assez grande, parce que ma famille a manqué, parce que mes grands-parents ont fait faillite.
C'est parce que je veux attraper le morceau, absolument, il faut que je l'attrape.
Oui, c'est ça, c'est attraper le morceau. En biologie, on parle des organes plutôt du système digestif, c'est le gosier, c'est je veux choper, attraper à tout prix le contrat, la promotion, je veux garder mon job, je veux absolument la prime, je veux le machin. Attention, la voie du juste milieu, les amis, tout le temps. Un quatrième conflit qu'on va retrouver souvent, c'est les conflits de séparation. N'oublions pas que l'être humain, on le dit souvent, chaque émission, nous sommes des êtres grégaires, nous avons besoin d'être reconnus, nous avons besoin d'exister en groupe, en clan, dans une famille, une équipe. Et donc, si j'ai peur d'être exclu, si j'ai peur d'être rejeté, si j'ai peur d'être abandonné, je vais commencer à tout faire pour garder ma place.
Exactement.
Donc, posez-vous la question, dans quel domaine avez-vous l'impression parfois d'être rejeté, de ne pas avoir votre place? Est-ce la famille? Est-ce le sport? Est-ce les amis, est-ce je sais pas quoi, le village, l'association du village, peu importe. La place, c'est à vous de la prendre. Hein. C'est pas les autres qui nous la
donnent. Personne vous la donnera dans tous les cas de figure. C'est à vous de choisir quelle est votre place et puis quelle est la place qui vous convient. Parce que parfois, on n'a pas besoin d'être le premier, d'être le plus beau, le meilleur pour avoir la bonne place. Hein.
Ben oui.
On peut être très heureux en étant le 10e ou le 15e. À partir du moment où c'est OK pour nous, c'est OK pour nous. Et alors ?
Donc burn-in, c'est toute cette phase-là, c'est cette phase où on tient énormément. Alors bien évidemment, une fois qu'on a vidé tout le carburant du véhicule, lorsqu'on a on a plus de cortisol dans les surrénales,
et ben on bascule.
On bascule dans les burn-out.
C'est ça.
Il ne reste plus que nos burn en dehors de notre slip. Donc on est en burn-out et ça veut dire qu'à ce moment-là, vous avez asséché la réserve de votre véhicule. À ce moment-là, félicitations.
Bravo.
Bravo, vous êtes arrivé à destination.
Vous pouvez être fier de vous.
Vous pouvez plus continuer dans cette folie. Donc tant mieux, bravo, félicitations. Et là, c'est un cadeau de la vie. Remerciez la vie, remerciez l'univers, remerciez qui vous voulez. C'est la première fois de votre vie que vous allez pouvoir ralentir, vous poser les vraies questions sur votre vie. Et celui qui ne se posera pas les vraies questions sur sa vie pendant le burn-out, eh ben, sera condamné à recommencer.
Bien sûr.
Simplement. Et il n'y a aucun problème, ça peut être OK aussi. Tout le monde n'est pas en capacité de prendre conscience que quelque chose n'allait pas dans sa vie, dans son fonctionnement. Il y a des gens qui sont énormément dans l'ego, dans les répétitions. Ils ont besoin de vivre l'expérience deux fois, trois fois pour comprendre. C'est complètement OK, Michel. Hein.
Bien sûr.
Nous, en tant que thérapeute, on n'a jamais été là pour juger nos patients et on essaie de moins se juger nous-mêmes parce qu'on essaie de faire ce travail aussi sur nous-mêmes, bien évidemment. Eh bien, le but, c'est pas de se juger, c'est de faire comme on peut. Alors, le burn-out, Michel, c'est quoi?
Ah, bah, le burn-out, c'est le temps d'arrêt. C'est le cerveau, c'est le corps qui nous dit, en fait, stop. Il faut que tu t'arrêtes, en fait. Je t'ai envoyé des signes, j'ai essayé de te montrer. Je t'ai envoyé des problèmes de sommeil, je t'ai envoyé des problèmes de santé. Je t'ai donné plein de petits signes que finalement tu n'as pas entendu, que tu n'as pas écouté. Puisque tu ne m'écoutes pas avec moi, je suis épuisé et que là, la voiture, elle est en surchauffe. Pour éviter de casser le moteur et de dire stop définitif, bah, je te mets à l'arrêt.
Effectivement, pour éviter de mourir, je t'éloigne de toute source de stress.
Exactement. C'est une question de survie, en fait, finalement, pour notre
cerveau. Exactement.
Et parce que je veux que tu vives, je te mets à l'arrêt.
c'est positif, hein.
Bien
sûr. Ce n'est que positif. C'est survivre et c'est s'éloigner de la source de stress. Demain, j'ai de l'acide qui est juste à côté de moi qui risque de me défigurer, je m'en éloigne.
Bah, regardez, simplement, tu prends un plat chaud. Tu viens dans ton four, tu prends un plat qui est chaud. Au moment où tu le touches, ton premier réflexe.
Tu t'éloignes.
Survie. Tu vas le lâcher, tu vas le faire tomber.
Quelqu'un n'arrête pas d'être agressif avec moi, me parle mal, m'agresse physiquement. Je m'en éloigne.
Bien sûr.
Icare, trop proche du soleil, il aurait dû s'en éloigner. En fait, c'est ça le burn-out. C'est de toute façon un éloignement physique et psychique de la source du conflit.
Exactement.
Donc l'arrêt de travail est indispensable. L'éloignement est indispensable. On va pas, c'est non négociable, les amis. Là, franchement, là-dessus, ah oui, c'est non négociable.
Et dites-vous un truc, et ça c'est important d'en avoir conscience, s'il existe dans notre société, dans nos sociétés, hein, une assurance maladie, des aides, etc., etc., c'est pas pour rien en fait. Vous avez travaillé plus que de raison, ben, c'est que vous avez le droit aussi ben, de vous reposer un peu, de prendre un peu de temps du recul. Et il n'y a pas de honte à ça. Vous avez payé pour ça, vous avez cotisé pour ça, vos parents ont cotisé pour ça, vos familles ont cotisé pour ça, vos amis. Enfin, la société, elle est constituée comme ça pour aussi savoir tendre la main à celui qui ben, va peut-être pas bien.
Michel, tu as déculpabilisé 30% des auditeurs qui nous écoutent.
Eh ben tant mieux.
Parce que le burn-out aujourd'hui en France, hein, 2026, 2025, etc., c'est une personne sur trois qui est susceptible de faire un burn-out une fois dans sa vie. Une personne sur trois.
Et c'est humain.
Et c'est OK. Donc le burn-out, c'est le repos strict, c'est le sommeil. Donc on passe en système plutôt vagotonique, c'est-à-dire système vagal. Donc de toute façon, vous avez plus d'énergie. Donc vous devez dormir, bouffer, vous reposer. Activité physique, mais alors très très douce. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on peut plus faire de sport. Hein. C'est des petites marches. Déjà, rien que de se lever, d'aller parfois juste d'aller se doucher, c'est déjà un exploit.
Mais bien sûr, c'est pour ça qu'il faut prendre le temps en fait. Et y aller, et surtout, y aller étape par étape. Quand on vous dit bouger, oui, bah si bouger, c'est aujourd'hui aller prendre ma douche, et ben bravo.
Et ben voilà, ah si, ben c'est super. Si demain c'est aller faire les courses,
bah, si demain marché, même c'est juste aller dans ton jardin et te poser 10 minutes sur une chaise à l'extérieur,
c'est OK.
Génial, prends le temps. Et surtout, il faut pas à ce moment-là dans ces périodes-là, il faut pas griller les étapes et vouloir aller une fois de plus vite que la musique entre guillemets. Il faut vraiment prendre son temps et prendre le temps du temps qui est le mien. Et si ça prend une journée, deux journées, trois journées, un mois de plus, eh ben ça le prend.
De toute façon, vous n'aurez pas le choix. Il y a une chute tellement brutale du cortisol, il n'y a plus de carburant. Votre système nerveux, il prend le parasympathique, celui qui vous éteint, il prend le dessus. C'est-à-dire que quelqu'un vient, prend les clés de votre voiture, éteint le moteur, met la voiture dans le garage, il vous pique les clés. C'est ça, hein. Donc en fait, en gros, là, vous êtes en phase de félicitations de guérison. Parce que comme je suis en vagotonie, c'est-à-dire que je me répare. Et c'est là où on est crevé. C'est là où on doit se reposer, dormir, bouffer.
Dites-vous un truc, c'est que pour pouvoir réparer tout ce qui a été abîmé, entre guillemets, bah, votre corps, il a besoin d'énormément d'énergie. Oui. Donc cette énergie, elle peut pas être là dans la conscience, entre guillemets, de ce que je fais, ni de... Voilà. Donc elle est dans l'énergie du corps pour venir réparer.
Elle est basique.
Elle est basique.
Elle est vitale. Donc,
et puisqu'elle est en train de réparer l'intérieur du corps... Eh ben, je peux pas tout faire, et ben, je vais être fatigué, je vais me reposer, je vais faire la loque sur le canapé, je vais pas avoir envie de me laver, eh ben, on s'en fout.
Eh ben, donc, c'est repos strict, c'est sommeil, c'est alimentation anti-inflammatoire, allez voir les naturopathes pour vous conseiller.
Exactement.
C'est activité physique très douce, c'est aller être aidé, aller demander de l'aide psychologique.
Aller voir un psy, un psychiatre.
Psy du travail,
mais bien sûr.
Des gens spécialisés dans le burn-out.
Aller voir des thérapeutes, aller faire des trucs qui vont foutre du bien.
Redonner de l'énergie, toutes les techniques énergétiques, on vient me redonner de l'énergie.
Exactement.
Et parfois, ça peut aller très vite quand on travaille sur les surrénales. Peu importe les techniques énergétiques, aller voir des gens qui sont conseillés, le bouche-à-oreille, c'est toujours ce qu'il y a de mieux. Accepter de lâcher, il faut lâcher le contrôle, accepter de lâcher prise. Accepter de montrer à ses enfants, sa famille, son employeur qu'on n'y arrive plus et c'est OK.
Et vous savez, c'est peut-être un des points les plus importants. Faites ce cadeau à vos enfants, de leur expliquer qu'on a le droit.
Oui.
On a le droit d'être fatigué. On a le droit d'avoir besoin de temps pour soi. On a le droit d'avoir... peut-être besoin de temps pour se remettre de ce genre de choses. C'est un vrai cadeau que vous faites à vos enfants. Pensez-y.
Donc, félicitations à vous. Burn-in, vous pouvez encore réagir et ralentissez et roulez moins vite. Burn-out, bravo à vous. Enfin, vous allez pouvoir prendre du temps pour vous y redonner du sens.
Eh ben, moi, je vais même vous dire un truc. Je suis content de cotiser pour des gens qui sont en burn-out parce que peut-être un jour, ça m'arrivera et j'aurai pas honte.
Et moi, je suis fier d'accompagner les gens qui sont en burn-in et en burn-out chaque jour. Prenez soin de vous, les amis.
À très bientôt.
À bientôt.
Bye bye.
Hypnose, sophrologie, shiatsu kinésiologique, micro-kiné. Michel Effouad répond à vos questions dans votre émission Bien-être et vous.